debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, méprisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Nos entraves, debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave, debout, debout, debout.
Bonjour à toutes et à tous. Alors comme tous les mois, vous retrouvez le collectif Debout sur les ondes de RCN. Et aujourd'hui, nous sommes cinq. Moi, c'est Maya,
Marion,
Joseph,
Alison,
Patricia.
Et voilà, c'est bientôt le 14 février, la Saint-Valentin. On va commencer par vous faire partager une petite réflexion sur le sujet. Toute notre vie, on nous bombarde de messages sur ce à quoi on est censé aspirer quant à nos relations amoureuses. Ça commence dès l'enfance avec les contes de fées. Ça continue avec les comédies sentimentales, les courriers des lectrices et les publicités pour les fiançailles, le mariage. Non seulement c'est là qu'on nous enseigne que l'idéal amoureux est hétérosexuel, mais aussi que la monogamie est la seule option possible. Alors, être féministe, c'est quoi ? On retrouve la rubrique.
Nous sommes en marche ! Nous sommes en marche ! En fait, toutes les femmes ne sont pas libres ! Nous sommes en marche ! Nous sommes en marche !
Être féministe, c'est revendiquer pour toutes les femmes le droit de s'autodéterminer. Autrefois considérées comme des enfants, elles n'avaient ni le droit de posséder de compte bancaire, elles n'avaient pas le droit de vote. Et donc, être féministe, c'est revendiquer le droit pour chaque femme de faire ses propres choix. Avoir un enfant ou non, s'habiller comme on le souhaite, se marier ou non, être célibataire ou non, avoir des enfants ou non, etc. Ce droit est menacé par tous ceux qui disent « une femme ne peut pas ou ne doit pas faire ça » et qui ont des discours paternalistes, religieux, etc., qui visent à contrôler les femmes pour les maintenir dans un rôle social imposé. Être féministe, c'est refuser ces injonctions et demander la liberté de choisir et respecter les choix des femmes.
Oui, et on dit que le privé est politique. Hein, c'est un des slogans féministes auxquels on tient beaucoup. Alors, en quoi et comment le privé doit être politisé ? Et thème de débat public et aussi de revendications politiques. Alors, est-ce que féministe n'impliquerait pas de remettre en question la norme du mariage, la norme monogame, et de se battre pour la reconnaissance des alternatives ? Eh bien, on a décidé de parler de cette question aujourd'hui. Donc, l'émission portera sur le thème de l'amour libre et du féminisme. Et c'est une émission qui est faite avec un groupe qui s'appelle Le Graal, le groupe de réflexion et d'action sur l'amour libre. Mais déjà, qu'est-ce que c'est l'amour libre, Marion ?
Alors, l'amour libre, il faut savoir qu'il n'y a pas un amour libre, mais des amours libres. Donc ce n'est pas une doctrine, une secte organisée qui voudrait forcer les personnes à avoir plusieurs partenaires sous prétexte de révolution sexuelle post-68arde. Le but n'est pas d'imposer le modèle relationnel, mais de discuter les champs des possibles. L'amour libre est pris comme une alternative au modèle unique de l'amour conventionnel qui nous impose la jalousie, la possessivité, la consommation des corps et le non-consentement. Il concerne différentes personnes, mariées, en couple, célibataires, etc. Et l'amour libre, bien qu'on ne peut pas vraiment, on ne puisse pas vraiment le définir, cherche à émanciper les individus des carcans qui nous sont imposés par les institutions religieuses, l'État, les médias, la culture. Les associations hâtives entre l'amour libre et le libertinage ou une autre forme de consommation sexuelle sont très vite faites, mais il ne faut pas s'y tromper. Historiquement, ce mouvement revendiquait plutôt l'absence de contrôle par la loi des relations amoureuses engagées librement. Donc, pour le définir, l'amour libre, c'est simplement le droit de choisir, avec le consentement de son, sa ou ses partenaires, la manière dont on va gérer la ou les relations, amoureuses, amicales ou autres. L'amour libre, c'est une démarche quotidienne et régulière que tout le monde peut engager, que l'on soit en couple ou célibataire. Elle donne l'occasion de briser les non-dits et de se demander ce que l'on peut vivre avec nos amis, amours, familles et de quelle manière ces relations peuvent être le reflet de valeurs féministes comme le libre choix, la non-appropriation des corps, le respect de l'intégrité d'autrui, l'indépendance financière et psychologique à l'égard d'autrui et les principes de la communication non-violente.
Eh oui, ne laissons pas à l'État et aux institutions religieuses le contrôle de notre vie privée. C'est à nous d'en discuter, c'est à nous de décider peut-être de s'organiser autrement. Alors ça, c'est un des objectifs du Graal, donc le groupe de réflexion et d'action sur l'amour libre, dont certains et certaines d'entre nous font partie, avec qui on a préparé cette émission. Donc voilà, c'est un groupe d'action sur Nancy qui a pour vocation de faire parler de cette question de l'amour libre. Et alors nous, pourquoi on en parle en tant que féministe ? Eh ben voilà, il y a différents modèles sociétaux dans le monde, dans les époques, et on peut remarquer que toutes les sociétés patriarcales sont conjugalisées. C'est-à-dire qu'elles pratiquent toutes le couple institué, qu'il se nomme mariage, pax, concubinage. Voilà, toutes les sociétés patriarcales sont conjugalisées, ça peut ne que nous alerter en tant que féministes. Et les sociétés les plus égalitaires et les plus justes ne sont pas conjugalisées. Alors ça peut nous intéresser. Alors, si on réfléchissait un petit peu à l'amour tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il doit se faire au niveau sociétal, au niveau individuel, si on parlait du mariage.
Alors pourquoi se marie-t-on ? Pour les gens, généralement, c'est pour prouver son amour, c'est pour fonder une famille, c'est parce qu'on estime que le statut social ce sera plus gratifiant que d'être célibataire. Pourtant, à la base, le mariage, c'est avant tout économique et politique. C'est vraiment pas lié au sentiment. Donc si on regarde vraiment historique. Au départ, on a créé une définition indiquant que c'était l'union légitime d'un homme et d'une femme, donc on voyait même pas l'aspect homosexuel, alors que maintenant ça commence à être vu. Étymologiquement, on se rend compte que c'est vraiment un mot qui est tiré du mot mâle, donc le but c'est vraiment d'instaurer le patriarcat et de vérifier que l'enfant est bien celui du père. Le but c'était vraiment contrôler la sexualité de la femme. En la mariant, on interdisait le sexe hors mariage afin de la contrôler, s'assurer que l'enfant était bien du père. Donc ça donne lieu vraiment à de nombreuses violences afin d'éviter que la femme puisse avoir des rapports avec quelqu'un d'autre que son mari. D'ailleurs, quand on le voit dans l'Antiquité romaine, on s'aperçoit que le père, il avait carrément tout pouvoir sur sa famille complète, hein, sur toute sa maisonnée, il avait le droit de vie ou de mort. Donc, c'est-à-dire que quand sa femme avait un enfant, s'il décidait de le tuer, il pouvait. Si sa femme était considérée comme éventuellement infidèle, il pouvait la tuer. C'était non problématique pour eux. C'était leur code conjugal qui indiquait que le mari est le juge de la femme, que son pouvoir est sans limite. Donc, Et on en voit comme ça tout au long de l'histoire. Les choses n'ont pas beaucoup évolué avant le XXe siècle. Le mariage en 1832, on considérait qu'il n'y avait pas de viol entre époux. Il a fallu attendre 1990. Hein. Donc on commençait seulement à parler de viol comme crime. Et c'était même pas la femme qui était la victime. On considérait que c'était le père, le mari, qui était lésé si sa femme avait été violée. En 1910, on considérait même que le sexe était avant tout un devoir conjugal dans le couple, et que du coup la femme se devait d'avoir des rapports avec son mari, qu'elle le souhaite ou non. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est surtout que la femme est considérée comme un humain qui est censé être là pour procréer, et que c'est une paria, que c'est de l'infamie si elle ne cherche pas à se marier, à avoir des enfants.
Oui, et puis aussi la fille mère pour montrer tout le mépris qu'il y a envers une femme qui ne serait pas
voilà, mariée. C'est ça. Une femme qui a un enfant, bon, nos jours, c'est un petit peu plus reconnu, mais pendant longtemps, on séquestrait les femmes qu'on considérait comme des parias dès l'instant où elles avaient un enfant hors mariage dans des couvents.
Oui.
On pouvait même les pousser au suicide.
Merci à toutes les féministes qui ont combattu pour ça. Donc, si le mariage d'aujourd'hui ressemble un peu moins au contrat originel, c'est que l'amour s'y est associé. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu simplement abolir ce type de contrat ? Souvent, ben, on a peur que ça nuise à la famille, mais il est complètement faux de dire que le mariage est nécessaire à la famille. De toute façon, regardez ce qui se passe actuellement, regardez ce qui se passe dans d'autres sociétés. Il y a plein de sociétés qui ne pratiquent pas le mariage et qui vivent dans des familles sans mariage. Et il y a des sociétés conjugalisées et des sociétés non conjugalisées. Et celles où l'on se marie, celles où on ne se marie pas, celles qui instituent le couple et celles qui gardent le secret, partout il y a des familles et le mariage n'est absolument pas nécessaire.
Le but était surtout de mettre le corps des femmes à disposition de celui des hommes au niveau sexuel.
Et voilà, ça entraîne justement cette institution du mariage, de la propriété finalement des femmes qui doit appartenir aux hommes. Ça entraîne aussi cette notion de possessivité, d'appropriation du corps de l'autre.
Donc, le petit questionnaire, est-ce que votre partenaire est possessif ? Donc, la jalousie est un des signes annonciateurs les plus probants de violence psychologique. Elle la précède puis l'accompagne. Le manipulateur, homme ou femme, fait passer son caractère possessif pour de l'amour. Il dira par exemple « Je suis désolée d'avoir aussi mal pris le fait que tu parles à ton ex, mais je n'ai jamais aimé autant que toi. Je ne peux pas supporter l'idée que tu sois avec quelqu'un d'autre. » Il vous appellera 10 fois par jour pour savoir ce que vous faites et où vous êtes et avec qui. Il insistera pour que vous passiez tout votre temps libre avec lui. Ses sentiments pour vous sont sans doute très forts, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il veut être en contact constant avec vous. S'il vous surveille de près, c'est essentiellement pour s'assurer que vous êtes bien sa propriété. Ses comportements ne sont pas des preuves d'amour, mais de possessivité. Il ne faut pas confondre sentiment de jalousie qui peut être ressenti par tout le monde et doit être exprimé et discuté et comportement jaloux qui est une prise de pouvoir sur l'autre. Un contrôleur qui manque de confiance en lui va s'inquiéter de vous voir interagir avec d'autres hommes ou d'autres femmes, surtout s'il s'agit de vos anciens partenaires. Il aura besoin d'être rassuré. S'il exige que vous abandonniez une grande partie de votre liberté pour calmer sa jalousie, c'est que son besoin de pouvoir est en train de s'installer dans votre relation. Votre vie sociale et vos rapports avec autrui ne devraient pas avoir à changer pour compenser le manque de confiance d'un autre.
Voilà, ne pas contrôler les autres.
Il peut y avoir quelque chose de flatteur dans la jalousie. C'est agréable de savoir que quelqu'un est follement amoureux de vous. Toutefois, on peut être fou de quelqu'un sans pour autant être excessivement jaloux. Les conduites possessives de votre conjoint signalent qu'il ne vous aime pas en tant qu'être humain distinct, mais plutôt qu'en tant que trophée. Avec le temps, vous finirez par vous sentir étouffé par cette vigilance constante.
Oui, et puis, voilà, quand on parle d'infidélité, il faut savoir aussi que ce n'est pas toléré, pareil pour les hommes et les femmes, et ça peut être mortel pour les femmes, parce que selon les endroits, les époques, et y compris aujourd'hui, l'infidélité sexuelle est tolérée pour les hommes, de façon plus ou moins explicite, tandis que l'infidélité féminine est punie, sinon de mort véritable, du moins de mort sociale. Et les hommes qui encouragent des châtiments, c'est quand ils sont l'autre homme, c'est-à-dire ceux qui ont volé la propriété légitime du mari. Et actuellement, dans certaines régions du monde, les femmes sont encore condamnées à mort pour une infidélité.
Du coup, on avait un questionnaire qui permet en fait de savoir, de reconnaître les comportements jaloux. Donc, on va vous dire les différentes manières de reconnaître les comportements jaloux et les preuves de possessivité. Il veut toujours savoir où vous êtes et avec qui. Et bien sûr, si vous avez rendez-vous avec une personne qu'il considère comme une menace, il fait la tête.
Elle veut intervenir dans toutes vos décisions personnelles. Si vous ne tenez pas compte de son avis, il ou elle s'énerve et critique votre décision.
Il vous appelle souvent. Au premier abord, vous pensez qu'il veut seulement parler avec vous. Mais en réalité, c'est une forme de contrôle. Le nombre d'appels explose si vous n'êtes pas à la maison ou au travail, c'est-à-dire quand il n'arrive pas à savoir où vous êtes.
Elle n'aime pas que vous fassiez des choses en son absence. Elle considère comme une trahison que vous ne vous amusiez sans elle et trouve anormal de sortir entre amis sans son conjoint.
Il n'approuve pas les nouvelles activités, surtout si vous envisagez de les faire seul. En fait, un nouvel environnement implique de nouvelles connaissances, soit une menace potentielle pour lui ou elle.
Elle joue avec le chantage émotionnel pour vous garder toujours à ses côtés et que vous vous sentiez coupable si vous vous éloignez. Si vous prévoyez des plans sans elle, votre partenaire vous répondra certainement qu'elle se sent seule, triste, qu'elle est soudainement tombée malade ou qu'elle est en colère pour quelconque raison.
Il vous demande des détails sur vos amis, des comptes sur votre journée et votre passé. La question qu'il vous a posée aujourd'hui, il vous la reposera dans quelques jours. Votre conjoint cherche à savoir si vous avez menti ou si vous répondez correctement. Un véritable interrogatoire.
Elle ne respecte pas votre vie privée. Elle veut connaître les mots de passe de votre boîte mail. Elle consulte vos messages sur votre portable sans rien vous demander et visite votre profil sur les réseaux sociaux très régulièrement. Si vous êtes au téléphone, il se rapproche pour entendre la conversation. Si vous refusez, elle s'immisce autant dans votre vie privée, elle pensera que vous êtes en train de le trahir pour vous lui cacher quelque chose.
Il n'aime pas que vous portiez tel ou tel vêtement, surtout si ce vêtement laisse entrevoir des parties de votre anatomie, jupe, chemisier cintré, dentelle, robe courte. Il ne va pas vous dire directement qu'il ne veut pas que vous le portiez, par peur qu'on vous regarde. Au contraire, elle trouvera une excuse en disant par exemple que cela ne vous va pas, que ce genre de vêtement est vulgaire ou que la couleur ne vous met pas à votre avantage.
Son monde tourne autour de vous. Tout son temps libre, elle veut le passer avec vous et vous cherche constamment. Elle a mis de côté ses amis et ses activités solo se réduisent. Elle essaye de développer la même dépendance chez vous.
Il ne reconnaîtra jamais qu'il est excessif ou jaloux. Il vous dira toujours qu'il le fait par amour, pour vous protéger et prendre soin de vous, ou bien qu'il a peur de vous perdre, car il vous aime trop. En retour, il attendra de vous une réponse similaire pour se sentir aimé à son tour. Il faut savoir qu'on a mis alternativement il ou elle, mais donc c'est valable pour les deux genres. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire redondance. Voilà.
Ah, donc c'était le questionnaire. Est-ce que votre partenaire est possessif ? Et voilà, la jalousie, elle est souvent présentée comme une preuve d'amour. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment ?
Donc on va écouter la non-demande en mariage.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon. Tant d'amoureux ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au pas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs au cœur des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te n'avons pas nos noms au pas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. Qu'à aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le poteau. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au pas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits. L'encre des billets doux pâlit vite entre les feuilles des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au pas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais
Quand vous avez reconnu une reprise, une chanson de Brassens, La non-demande en mariage. Donc c'est une reprise par Maggie Boll. Et vous êtes toujours sur RCN 90.7 avec le collectif Debout et le Graal. Et on vous parle d'amour libre et de féminisme. Alors une autre petite réflexion sur le sujet. Le couple me pose plusieurs problèmes, pouvant se résumer à de multiples restrictions de liberté propres à cette institution sociale, qui n'est pas, contrairement à ce que certains m'ont soutenu, libre des influences, des modèles et du formatage social. Pas plus libre que n'importe quoi d'autre. C'est notamment via le couple que la société, ses normes et ses règles, s'invitent dans notre intimité et nous dictent nos comportements en matière d'affection, de relations sexuelles, etc. Et alors, pour en parler un peu plus, on vous propose un pot pourri.
Aujourd'hui, dans le laboratoire d'analyse où je travaille, j'ai dû faire un prélèvement vaginal à une patiente. Cette dernière a sorti son téléphone et m'a dit « Ça ne vous dérange pas si je vous prends en photo en train de faire le frottis ? Mon mari jaloux ne croit pas que vous êtes une femme. »
Aujourd'hui, ma nièce de 16 ans m'a expliqué que si elle voulait à tout prix un copain, c'est parce qu'elle n'avait pas envie de finir à 50 ans, célibataire, seule, sans enfant, avec 90 kilos et 3 chats. Je ne savais pas que je donnais à ce point l'impression d'être malheureuse.
Aujourd'hui, ma concierge est venue me chercher en prétextant un problème à la cave. En fait, c'était juste pour me présenter notre nouveau voisin célibataire qui était à la buanderie parce que ça fait bien trop longtemps que c'est silencieux le soir chez vous.
Aujourd'hui, j'ai en moyenne 2 rapports sexuels par mois. C'est 4 fois moins que lorsque j'étais célibataire. Engagez-vous, qu'il disait.
Aujourd'hui, moi, à ma fiancée, romantique et émue, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Et elle, réaliste, bah tu te branlerais. Voilà, c'était des vies de merde.
Donc on a aussi une vie de meuf, qui est un site spécialisé pour les femmes. Au cours d'une discussion sur la maternité au boulot, j'annonce à mes collègues que personnellement, je n'aspire pas à avoir d'enfant. J'ai 27 ans. C'est à quoi on me répond, pour l'instant, mais tu auras bien un mari un jour. Juste avant de reprendre. Enfin, je veux dire, un conjoint. Lorsque j'explique que je ne me prononcerai pas sur cette question, puisque je ne suis pas devin, on me répond. Mais quand tu auras 40 ans, ça va bien te manquer. Visiblement, une femme ne peut pas profiter pleinement de la vie si elle n'est pas en couple.
Ah oui, le libre choix. Alors, y a aussi des expressions hein, pour parler de se mettre en couple, comme par exemple...
Mettre la corde au cou.
Enterrement de vie de jeune fille ou de garçon.
La bague synonyme de chaîne.
Au moins pour correspondre à un modèle. C'est difficile de parler de l'amour libre en famille, au travail ou même dans le cercle familial. On se sent isolé.
Et puis c'est dur à imaginer que tu sois plus heureux ou heureuse célibataire que dans d'autres rapports relationnels. Alors par exemple, dites autour de vous « Je veux être célibataire toute ma vie ».
La société se permet de dire ce que tu dois faire ou pas dans ton intimité.
Et l'homophobie. On pense toujours la question à une fille. Et toi, tu as un copain ? Comme si cela allait de soi ou l'inverse.
L'illusion de l'unique, l'homme ou la femme de ma vie, et de la complémentarité des sexes, certaines parfois des comportements fusionnels extrêmes. 24 sur 24 ensemble, le couple s'auto-suffit. Cela empêche parfois l'émancipation individuelle.
Contrat perdant-perdant, je t'empêche un truc et je me l'interdis.
Et dans l'esprit commun, le couple et la famille sont les pierres angulaires de la société, le modèle hiérarchique, le noyau familial. Alors que les familles recomposées et monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Comme souvent, la tradition ne reflète plus les mœurs modernes et ceux qui ne rentrent pas dans le modèle sont marginalisés.
Un bon exemple de cela, pour s'intégrer à la nation, le seul moyen d'obtenir la nationalité et des papiers, c'est de se marier ou d'avoir recours au regroupement familial.
Consentir à un truc une fois ne veut pas dire consentir à tout le temps. Exemple, je t'embrasse un soir, ça veut pas dire que je veux coucher avec toi, que je vais avoir envie de t'embrasser tout le temps.
La perte de l'individualité et de la singularité de chacun. On te définit par rapport à ton conjoint, la copine d'eux, le copain d'eux. Et encore pire dans les courriers, monsieur et madame Arthur Martin.
Ouais, il y a des obligations qui touchent plus particulièrement les femmes.
Mère ou salope, et maintenant faut être les deux, mi-pute, mi-soumise.
Les poupons, les contes de fées qui finissent par « Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants ».
Travailleurs de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? Trop souvent, le rôle ménager est encore attribué aux femmes.
Salopophobie, slut shaming, alors que la donjuanphobie, on ne connaît pas.
La femme doit obéissance historiquement, le mari doit subsistance.
Violence conjugale, très souvent ce sont les femmes qui sont victimes, ou les hommes coupables plutôt.
Puis la dépendance économique, la différence des salaires, et puis on perd les aides sociales individuellement pour la femme qui est forcée de prendre un congé parental car elle gagne souvent moins que son mari.
Il y a aussi la question du mademoiselle ou madame. Trop souvent, on est obligé de se dire divorcée ou veuve pour pouvoir être appelée madame sur les courriers officiels.
Et puis, il y a tout ce qui est les tabous, les peurs, ce qu'on ne peut pas faire quand on est en couple.
C'est tabou de se masturber, par exemple. On a un témoignage. Croyant que son compagnon endormi, elle est entrée dans la chambre sur la pointe des pieds et l'a découvert en train de se masturber. Elle dit « C'était horrible. J'ai tourné les talons sans qu'il me voie. J'étais dégoûtée, effondrée. Je me suis sentie trahie. Pendant des semaines, je me suis posé des milliers de questions. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi pour qu'il ait besoin de ça? À qui pensait-il en le faisant ?»
Il est aussi très mal vu de fantasmer d'autrui lorsqu'on est en couple.
L'acceptation peut parfois difficile de la vie sociale et amicale distincte du partenaire.
Obligé de rester ensemble quand ça va pas.
Ah oui, parfois il faut quand on aime quelqu'un, c'est aussi savoir le laisser partir et puis savoir redonner sa liberté à l'autre. Parfois, bah oui, c'est mieux. On n'est pas plutôt que de rester dans des obligations. Alors on a une chanson sur le sujet, c'est Part de Jacques Higelin.
Qu'est-ce que t'as ?
Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Ça, c'est une citation de Simone de Beauvoir. Vous êtes avec le collectif féministe Debout et le Graal. On vous parle d'amour libre et de féminisme. Et voilà, comme à chaque fois, on prend un moment pour partager un témoignage, parce que c'est important. Donc voilà, la rubrique témoignage.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Le viol conjugal, ça reste un tabou. Le viol est déjà tabou en lui-même, on n'en parle pas aussi peu en baissant la voix. Pourtant, des femmes et des hommes violés, on en croise tous les jours. Je suis toujours choquée d'entendre autant de « tu sais, moi aussi », quand je raconte mon histoire, quand je casse la barrière de la victime digne, celle qui se fait oublier. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, j'ai un ami, une amie ou plusieurs qui ont vécu ça. Mais le viol conjugal gagne des sommets en la matière. Il est invisible, il reste nié par beaucoup. Pour exemple, Bruno Gollnisch, du FN, vous savez, le premier parti de France aux dernières élections, qui a cru bon de déclarer en 2011 « Quand je faisais mon droit, il n'y avait pas de viol entre époux, on était resté à la sagesse traditionnelle selon laquelle le mariage comportait en principe, comme l'avait déclaré un sociologue, une exclusivité donnée par chaque époux à l'autre sur son corps. Il est beaucoup plus grave et plus lourdement condamné pour un homme de violer sa femme dans le lit conjugal où elle est entrée volontairement que de violer la femme d'un autre, inconnu, agressé dans un parking ou un chemin sombre. On croit rêver. Je ne prendrai pas la peine de démontrer point par point l'absurdité et la violence de ce commentaire. Parfait produit de la culture du viol. Mais en tant que victime de violence et en tant qu'amie de victime de violence, je me dis que plus je serai silencieuse, plus certains s'octroieront le droit de faire ce genre de déclaration. Le genre qui dit aux victimes qu'elles sont deux fois coupables. Coupables d'avoir été là au mauvais moment et coupables de se plaindre. Qu'elles souffrent en silence. Leur douleur n'existe pas. Leur intégrité n'existe plus. Qu'elles crèvent en silence. Elles ne sont pas complètement humaines puisqu'on peut nier leurs paroles, leur volonté et leur corps. Et pour ma part, j'aimerais qu'on arrête deux minutes de nous insulter ainsi. C'est bien trop facile. On ne nous voit jamais. Facile de cracher sur une masse anonyme. Facile même de laisser entendre qu'il n'y a pas de victime finalement. Je vais enlever mon masque et je vais vous raconter comment j'ai vécu la survie à un viol conjugal. En anglais, pour désigner une victime de viol, on utilise le terme de survivor. Ça valorise la force qu'a eue la victime pour continuer à vivre, plutôt que de souligner le fait qu'elle a subi quelque chose. Et ça mérite d'être souligné. Parce que c'est ça le plus important. Nous avons survécu. Nous avons gagné. Je vais contextualiser le plus simplement possible. Je suis restée 2 ans avec mon violeur. Notre première fois, ma première fois, a été un viol. J'ai dit non et il m'a forcée. Mais je n'ai pas été en mesure de l'identifier ainsi à l'époque. J'ai cru que c'était ça la norme, contraindre. Nous avons eu par la suite des relations régulières. Je n'ai plus dit non. Mais étant donné que notre relation était basée sur l'idée que je devais de toute façon céder, que je le veuille réellement ou non, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de relation consentie. Même si j'en avais envie, souvent. Même si j'y ai pris du plaisir, parfois. Parce que c'était bien le problème, que j'ai mal ou que je prenne du plaisir, que j'en ai envie ou non, et que je sois d'accord ou non, c'était au final anecdotique. L'ensemble de notre relation était très toxique, mais j'étais aveugle. Il y avait des bons moments et c'est tout ce que je voyais. Je le sentais très attaché à moi, très possessif. Et j'ai cru que c'était ça l'amour, que ça pouvait tout justifier. Mais en 2 ans, j'ai commencé à me rapprocher des milieux féministes et à réfléchir à la notion de viol et de consentement. Par ailleurs, notre relation a décliné et les bons moments se sont fait rares. Est arrivé le moment où je n'avais plus du tout envie de lui. Je ne voulais pas ou plus faire d'efforts. Qu'il me touche me dégoûtait. Et j'ai dit non, à nouveau, comme la première fois. Je ne raconterai pas l'acte en lui-même, parce que c'est juste un fait sordide et que vous pouvez très bien l'imaginer sans mon aide. Je serais tentée de me justifier, de dire que j'ai vraiment essayé de m'opposer, que j'ai insisté, que je l'ai repoussé, mais ça n'a servi à rien, et je suis finalement restée figée, à regarder le plafond, avec l'impression d'être une poupée de chiffon, une poupée glacée, sans sensation ni émotion. Mais au final, s'il y a bien une morale à cette histoire, c'est ça. J'ai dit non, et ça aurait dû être suffisant. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas été faible, j'ai fait de mon mieux. Mon mieux n'était juste pas suffisant dans cette situation. Et cette fois a été la fois de trop. Ce n'était pas le premier viol, finalement, mais c'est le premier que j'ai vécu comme tel. Et tout de suite après, il y a eu le déni, pur et simple. Je crois que je serais devenue folle sans. Mon esprit s'est automatiquement débranché et a rejeté en bloc les souvenirs pour n'en laisser que quelques images désincarnées. Il y avait juste quelques mots qui tournaient dans ma tête. Plus jamais ça. Mon violeur est parti au matin, comme d'habitude. Je l'ai appelé quelques jours après et je lui ai dit que je le quittais. Je sentais confusément qu'il fallait, à n'importe quel prix, que j'empêche cet événement de se reproduire une fois de plus. J'aurais laissé ma santé mentale, sinon ma vie. J'ai donc sorti cet homme de ma vie. Puis j'ai tout mis dans un coin et j'ai décidé que j'allais continuer de vivre, coûte que coûte. Ce n'était pas du courage, c'était juste la conscience que si je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, je ne serais pas forcément capable de repartir ensuite. Je voulais toujours vivre. Alors j'ai continué à sortir, à étudier, à danser, à lire, à rire, plus que jamais. Même avec cette impression tenace d'être morte à l'intérieur. Un goût de cendre dans la bouche. Voilà, c'était un témoignage d'une victime de viol conjugal, donc sur le site Mademoiselle. Alors peut-être qu'on peut en dire plus sur le viol conjugal, Joseph ?
Oui. Dans de nombreux pays, le devoir conjugal est toujours inscrit dans la loi. Et une épouse ne peut y porter plainte pour avoir été violée par son mari. Toujours mondialement, 38% des meurtres des femmes sont le fait de leur partenaire intime. En France, 1990, arrêt de la Cour de cassation condamnant le viol entre époux. Pourtant, les juges s'invitent toujours joyeusement dans le lit conjugal pour décider de ce qui devrait s'y passer. En pratique, le devoir conjugal est donc toujours d'actualité. Les juges peuvent s'appuyer sur les articles 212 et 215 du Code civil pour reprocher à l'un des conjoints de ne pas avoir eu de relation sexuelle avec l'autre, notamment quand celui-ci souhaite obtenir le divorce ou des dommages et intérêts en échange du préjudice causé par l'absence de sexe. L'article 212 oblige les époux à la fidélité mutuelle, tandis que l'article 215 dit qu'ils sont engagés à une communauté de vie. Certains juges interprètent donc ces obligations comme impliquant des relations sexuelles régulières. Ce qui veut dire que votre mari ou votre épouse vous doivent des relations sexuelles, mais que vous ne pouvez, que vous n'avez pas le droit de l'y obliger. Cherchez la logique. Même si le devoir conjugal n'est plus inscrit dans la loi, les mentalités, elles, ont du mal à évoluer. Et dans les faits, 30% des viols que subissent les femmes sont le fait de leur conjoint ou de leur partenaire. La plupart de ces viols sont dénoncés que très tardivement, en moyenne 4 ans après.
Oui, et faut quand même vraiment bien rappeler, bien comprendre ce fait que ce qui met le plus en danger une femme, c'est pas de se promener dans les rues, c'est pas de sortir, d'avoir des activités, en fait, c'est d'être en couple. Ça, c'est les statistiques qui parlent. Ça peut sembler étonnant, mais vraiment, le rapport du Conseil de l'Europe mentionne que la violence conjugale serait la principale cause de décès et d'invalidité des femmes de 16 à 44 ans. Donc, avant le cancer, avant les accidents de la route, avant la guerre, c'est la violence conjugale qui tue, qui mutile les femmes. Et il y a un autre point aussi, c'est les crimes passionnels, qui représente les deux tiers des meurtres et qui reste l'une des formes d'homicide les moins sévèrement punies. La majorité des homicides ont lieu dans les couples dont la situation matrimoniale est établie et c'est la séparation qui est le mobile principal pour le passage à l'acte dans 35% des cas. En ce qui concerne les homicides, donc dans des crimes passionnels, les décès touche les femmes dans 86% des cas et 80% des crimes passionnels sont commis par des hommes. Donc voilà où pousse aussi la possessivité et ce modèle-là. Alors nous, on veut des femmes libres, des corps libres, des esprits libres et notamment la liberté sexuelle. Voilà. Et il y a souvent une incitation à ce que les femmes soient très sexuées, très sexuelles, mais en fait pas trop librement. Alors c'est ça ce qu'on appelle le slut-shaming.
Voilà, c'est ça. Malgré la libération sexuelle, on peut dire que les femmes qui ont des pratiques libérées sont trop souvent stigmatisées. Donc slut-shaming, c'est une expression anglaise formée à partir de slut, salope, et de shame, honte. Donc une traduction approximative pourrait être stigmatisation des salopes, ou on appelle ça aussi la salopophobie. Elle désigne le fait de critiquer et de déconsidérer une femme en lui reprochant d'être une salope, à cause de son comportement sexuel. Un certain nombre de faits sont convoqués de façon récurrente, la multitude des partenaires amoureux et ou sexuels pour une femme, dans un très court laps de temps, ou pire, simultanément, ou alors une manière jugée peu discrète de parler de sa vie intime, de ses désirs et de ses fantasmes, des vêtements qui peuvent être perçus comme provoquants, un maquillage jugé excessif, une trop grande attention portée à la séduction. Donc tout ça, ça peut amener à être qualifié de salope. Le terme de salope n'est pas forcément employé de façon directe. D'autres qualificatifs peuvent servir à proférer les mêmes accusations que celles contenues dans le mot salope, d'une façon en apparence plus édulcorée. Donc on peut dire provocante, allumeuse, prostituée, pute, dévergondée, fille facile, etc. Donc les qualificatifs qui dénigrent ces femmes libérées sont nombreux. D'ailleurs, donc, les femmes sont victimes des préjugés qui courent actuellement. On dit encore trop souvent que les hommes peuvent mieux dissocier le sexe des sentiments et les femmes sont forcément sentimentales et croient au prince charmant. En fait, on nous demande de se rapprocher de la salope, donc de plaire, d'être jolie, mais sans être une salope, parce que la réputation est importante. Et si ça se sait qu'on a des partenaires multiples ou si on le montre trop, là, on va être stigmatisé. Donc, c'est un moyen de contrôler le plaisir des femmes. Et on le voit dès le collège, où la réputation est très importante pour les jeunes filles qui, on leur demande par exemple de faire une fellation. Enfin, les jeunes hommes peuvent demander cash de faire une fellation. Et après, la mauvaise réputation va courir et elle va être stigmatisée comme une salope, alors que ça a toujours été un moyen de contrôler, enfin de...
Oui, bah, si être une salope, c'est aimer avoir du plaisir sexuel et pouvoir contrôler sa propre sexualité, bah, je suis une salope et voilà, peut-être même et que nous sommes toutes des salopes.
C'est ça, le manifeste des je sais plus combien de salopes de...
Voilà, de et il peut y avoir des salopes éthiques aussi.
C'est ça.
Alors, on parle beaucoup de choses négatives, mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'amour, mais de l'amour libre et du féminisme. Et voilà, par exemple, on aimerait vous faire partager un extrait d'un roman d'Alexandre Dujardin qu'on a trouvé sur une compilation qui s'appelle « Comme une envie d'eux », qu'on partagera sur notre site web, alors qui s'appelle « Les coloriers », c'est un conte.
Loin, 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 tout là-haut sur la carte, existe une petite île appelée Délivrance. C'est sur cette île que vit une joyeuse bande de petits êtres insouciants, les coloriers. Bien loin d'avoir eu la médiocrité de s'adapter au réel, ils ont eu le culot de le réinventer. Nous avons retrouvé un carnet de bord dans une épave échouée sur les côtes atlantiques qui nous donne une petite idée de ce à quoi ressemblait leur vie. Une façon de vivre bien différente de la vie adultienne que nous connaissons.
Les adultes évitent toujours de dire ce qu'ils ressentent. Ils croient que si on est amoureux, on doit deviner les besoins de l'autre sans qu'il en parle.
Et que l'amour, c'est ça.
Une devinette.
C'est un système assez efficace pour ne pas se comprendre et en vouloir ensuite à l'autre.
Aux yeux d'un colorier, cette conduite extraordinaire était à se tordre. Ne pas signaler ses envies réelles, espérer que l'autre les subodore pour ensuite lui reprocher de ne pas les avoir comprises, était pour eux de l'ordre du gag. Fascinés par la phénoménale imbécilité adultienne, ils commencèrent à en rire comme des cornichons.
Les adultes, ils ne s'amusent pas vraiment les uns avec les autres. Ils ne cherchent pas à pirater, à surprendre leurs désirs. Un adulte, dès qu'il embrasse, il pense qu'il a décroché l'autorisation de recommencer, même si le charme est rompu. Du coup, ils seront complètement le charme. Nous, les coloriers, on joue comme des fous à se chavirer le cœur. Chaque journée est une partie toute neuve. Quand tu t'endors avec une personne, elle n'est plus à toi au lever du soleil, et le jeu recommence.
Et si d'aventure, un ou une coloriée vivait une relation amoureuse avec un ou une adulte, et que ce dernier ou cette dernière voulait jouer au mariage, voilà le genre de situation cocasse que cela pouvait créer.
Les mariés s'engagent-ils à se quitter s'ils ne s'aiment plus, plutôt que d'embêter l'autre ?
Oui. Je m'engage de tout mon cœur à te plaquer. Ça, je te le jure.
Mais on est là pour s'engager, pas pour promettre de se quitter.
Justement, tu t'engages à des trucs jolis, comme par exemple de t'en aller si tu n'es plus amoureux, mais sans gronder personne.
Alors, partout, exhibées ou dissimulées, il y a des sexualités alternatives qui sont associées à la sexualité légale. La sexualité légale, elle est attachée à l'institution du mariage et à la prohibition sexuelle qui l'accompagne. La prohibition est cette force qui dissuade ou empêche les gens d'envisager l'éventualité d'une relation sexuelle hors du couple ou avec des gens qui s'affichent en couple. Alors, inutile de préciser que là où ni le couple ni la conjugalité n'ont de statut, rien de cela n'a lieu d'être. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est de l'amour. Mais aussi de l'indépendance et de l'autonomie. Et ça aussi, c'est important de pouvoir déjà être heureux soi-même.
C'est ça. Le problème, c'est que dès l'enfance, on vous bombarde avec des contes de fées qui indiquent que la fin ultime pour une femme, c'est de se marier et avoir des enfants. Alors, il faut quand même réfléchir. Hein. Au-delà de ça, on peut avoir des tas de facteurs qui permettent d'être heureux. On a des... Il y a le travail, par exemple. On peut s'épanouir au sein de son milieu professionnel. On peut s'épanouir dans sa vie sociale, amicale, etc. On peut s'épanouir à travers diverses activités. Il ne faut pas oublier que quand on est célibataire, hein, quand on ne s'impose pas le carcan du mariage, on fait ce qu'on veut quand on veut. C'est une avancée sociale pour les femmes. Et pourtant, on continue à marginaliser le célibat, alors que c'est pourtant... l'autonomie, l'indépendance de la femme. Donc, il faut essayer de réfléchir. On n'est pas simplement la fille d'eux, la femme d'eux, la mère d'eux. On est soi avant tout, on est un individu et on peut s'épanouir à travers autre chose que le mariage.
Oui. Et on a aussi le droit à pas forcément avoir le full package, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il faut être avec la même personne toute sa vie, habiter ensemble, dormir ensemble, avoir des enfants et avoir la maison, etc. Et voilà, il faudrait tout avoir. Alors tout le monde voudrait avoir ça comme si c'était l'idéal. Comme si c'était l'idéal pour tout le monde. Ben non, on a le droit aussi à des relations hors normes.
De toute façon, ça a été prouvé que c'était pas du tout source de bonheur. Au contraire, entre les violences conjugales, tout ce qui se passe dans la société, c'est pas du tout le mariage qui vous assure une vie heureuse. Hein. Le bonheur, c'est avant tout un ensemble de petites joies au quotidien et c'est vous le responsable de votre vie.
Oui,
votre bonheur. Et du coup, il faut le rappeler, on a le droit de ne pas habiter avec ses partenaires.
On a le droit de ne pas dormir dans le même lit ou d'avoir une chambre chacun, chacune.
Le droit de se marier ou de ne pas se marier.
Et on a le droit de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas une obligation.
Et on a le droit d'en avoir aussi si on veut, mais on a le devoir de s'engager, le devoir d'être sincère, parce que c'est ça aussi nous ce qu'on souhaite, l'amour dans le sens, le respect aussi des autres, et ça veut dire être sincère avec soi-même, pouvoir aussi réfléchir nous à ce qui nous motive, pourquoi on est comme ça, c'est... On est souvent dans des reproductions de schémas, voilà, le schéma familial qui se transmet depuis des millénaires. Et ben, à un moment, on a aussi le droit de s'arrêter, de réfléchir et puis d'avoir des alternatives. Alors, comme par exemple, le polyamour. Alors, attention, ne pas confondre polyamour et polygamie, parce que la polygamie, c'est un homme qui couche avec plusieurs femmes, mais par contre, c'est totalement interdit pour les femmes. Donc ça, c'est pas une égalité, c'est pas une relation libre.
Donc le polyamour, qu'est-ce que c'est ? Le polyamour provient de l'anglais polyamory, qui désigne les relations amoureuses impliquant plus de deux personnes. Elle intègre la notion d'inclusion, ce qui veut dire qu'un partenaire ne chasse pas l'autre, mais vient s'ajouter à l'autre. Donc aimer plusieurs personnes en même temps, de façon assumée et honnête, avec toutes les personnes impliquées. L'honnêteté implique beaucoup de communication. C'est de savoir poser ses limites, connaître celles des autres. C'est être honnête avec soi, ses sentiments, ceux de ses partenaires. Les relations polyamoureuses sont multiples. Il n'existe pas une définition, ni un modèle, puisque c'est réinventer justement des relations qui nous convient au mieux. On peut y retrouver par exemple certains types de relations comme la polyfidélité, c'est-à-dire un couple élargi dont plus de deux personnes, mais fidèles entre elles. Des relations secondaires que l'on distingue de la relation primaire avec qui on a des projets à long terme, ou alors tout simplement l'amitié sans frontières où on ne s'occupe plus de poser des étiquettes sur des relations et où on supprime la hiérarchie des relations. Il n'y a pas plus important que l'autre. Donc le polyamour implique des valeurs très importantes dont l'honnêteté, la franchise et le respect, la fidélité aux engagements pris, ce qui implique du dialogue et du consensus. Comme rien n'est acquis, il faut s'exprimer clairement sur ses intentions, sur ses attentes, ses sentiments, sur ce qui nous tient à cœur. C'est aussi s'interroger sur soi, c'est instaurer des règles qui peuvent évoluer dans le temps, au fur et à mesure des discussions avec les différents partenaires, rien n'est figé. Aussi, le polyamour n'oblige pas de vivre plusieurs relations amoureuses. Elle n'oblige pas non plus à avoir le même nombre de partenaires que son ou ses amoureux. On peut simplement rechercher un changement de nature des relations pour la fluidité. C'est casser la frontière donc entre les relations. C'est aussi la séduction, toujours renouvelée. On n'est plus casé, on peut toujours plaire. Il y a moins de pression, moins envie de changer de partenaire. Les demandes sont prises en compte et non comme des exigences. La solitude est plus acceptable et apprivoisée. L'identité sociale peut se construire plus facilement quand on apprend à être émancipé. Le polyamour ne convient pas à tout le monde, mais ne serait-ce que ne pas prendre pour acquis des normes de couple que l'on pense aller de soi et interroger son partenaire et soi-même, dialoguer toujours sur ce qui nous convient au mieux. Alors, quelques idées reçues sur le polyamour. Ce n'est pas une façon déguisée de tromper son partenaire. Ce n'est pas coucher avec tout le monde. On peut très bien avoir des relations polyamoureuses qui n'incluent pas le sexe, mais ce n'est pas pour autant de l'amitié. C'est une relation amoureuse, donc sans sexe. Ce n'est pas être incapable de choisir, ce qui peut aussi parfois être ce qui peut parfois
Oui, mais c'est des préjugés qui oui. sont là aussi pour empêcher justement des modèles alternatifs de faire leur place et d'avoir leur place publiquement. Donc effectivement, on a plein d'idées de ce type pour une femme, surtout une femme hein, qui aurait plusieurs amants assumés.
Donc oui, on retombe toujours sur les partenaires multiples. Donc pourquoi vouloir quitter une personne que l'on aime sous prétexte que l'on doit en aimer qu'une seule à la fois? Comme on peut aimer ses amis ou ses enfants, on n'en aime pas plus que l'autre, mais on les aime de façon différente. D'ailleurs, on l'appelle l'argument de l'économie de la famine. Donc l'amour n'est pas un gâteau que l'on partage entre ses amoureux, c'est un sentiment exponentiel. Donc on peut aimer plusieurs personnes en même temps, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas non plus du libertinage, comme parfois on peut le comparer. Même si le sexe peut être aussi important comme dans toute relation amoureuse, le polyamour n'implique forcément aussi des sentiments, ce qui n'est pas non plus le cas. Ce sont deux relations différentes. Ce n'est pas un manque d'engagement, bien au contraire. Certains s'engagent auprès de chaque personne avec qui on a une relation. Et ce n'est pas non plus de la consommation amoureuse, comme parfois on peut être reproché. On ne consomme pas les personnes, nous sommes des personnes à part entière, avec nos sentiments et sensibilités différentes, et on vit différemment.
Oui, alors vous pouvez creuser la question, parce qu'on va mettre plein de liens en fait sur notre site www.collectif-debout.org. On voulait faire une émission Amour libre et féministe, parce qu'on se demande, en tant que féministe, est-ce qu'on ne devrait pas toujours remettre en cause ces normes sociales imposées? Et y a aussi donc cette contrainte monogame. Est-ce que c'est simplement une histoire de tradition, ou bien est-ce que c'est encore un autre moyen de contrôler et régenter le corps et la sexualité des femmes? Allez, une chanson « Je veux tout » de Ariane Moffa.
Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'immédiat.
sachez que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici.
Je veux tout, je veux l'amour et la liberté. Vous êtes avec le collectif Féministe Debout et les groupes de réflexion et d'action sur l'amour libre sur RCN. Et on va vous présenter les actualités locales. Alors j'ai sous les yeux un livre qui s'appelle « La quête de la vérité » qui a été écrit par Olympe Debout. Bon, c'est une amie du collectif Debout. Donc c'est l'histoire d'une doctorante en archéologie qui part en exploration pour découvrir que Dieu est une femme. Voilà, on vous conseille ce roman ésotérique distribué aux éditions Amalté, « La quête de la vérité » d'Olympe Debout.
Alors pour l'actualité de février, le 25 février, on organise une soirée qui s'intitule « Médecine et corps des femmes. Est-ce que mon corps m'appartient ?» Maintenant, vraiment désormais, donc avec la participation d'intervenantes issues du milieu médical pour discuter des questions de médecine et de corps des femmes.
Il y a la soirée du Graal le 28 février à 18h30 au CCAN.
Donc le Graal, le groupe d'action de réflexion et d'action sur l'amour libre.
Et il y a avant tout le 8 mars, la grande manifestation qu'on va faire pour la journée de la femme. Alors, rendez-vous à 10h30 place Maginot pour une journée complète centrée sur la femme avec différents collectifs.
Les femmes,
sur les femmes avec différents collectifs et syndicats dont Solidaires. Donc, il y aura différentes actions, on va chercher à rebaptiser les noms des rues, on va initier l'autodéfense, faire un pique-nique, faire du slam, enfin vous verrez, venez nombreux.
Donc rendez-vous à 10h30 le 8 mars, place Maginot, et ensuite tout l'après-midi à partir de 13h à la Pépinière. Et aussi en mars
Le 14 et 15 mars se déroulera un stage d'autodéfense, et pour cela il faut s'inscrire sur collectif-debout.org.
Et voilà, alors, est-ce que vous voulez une dernière phrase pour conclure sur l'amour libre et le féminisme ? Oui, Alison ?
Oui, bah, c'est juste pour dire que c'est pas toujours évident de vivre dans les hors normes et que parfois, bah, il faut s'assumer et
vivre la liberté et les choix personnels.
C'est ça, il faut surtout penser à l'amour.
Et essayer de remettre en question un peu ce qu'on nous propose et les barrières et la hiérarchie entre les différentes relations amoureuses, amicales.
Et vaincre cette force morbide qui nous fait tyranniser l'autre et vaincre cette peur irrationnelle de se retrouver seul et abandonné sous prétexte qu'on n'est pas le seul individu aimable sur cette planète.
Ah là, le célibat n'est pas une tare.
Merci de nous avoir écoutés. Au mois prochain.
la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, méprisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Nos entraves, debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave, debout, debout.